Je rentrais en pensant à cette matinée, en revoyant l'éclair au café que j'avais fini de manger avant de me laisser conduire par Elstir auprès d'Albertine, la rose que j'avais donnée au vieux monsieur, tous ces détails choisis à notre insu par les circonstances et qui composent pour nous en un arrangement spécial et fortuit le tableau d'une première rencontre. Mais ce tableau, j'eus l'impression de le voir d'un autre point de vue, de très loin de moi-même, comprenant qu'il n'avait pas existé que pour moi, quand quelques mois plus tard, à mon grand étonnement, comme je parlais à Albertine du premier jour où je l'avais connue, elle me rappela l'éclair, la fleur que j'avais donnée, tout ce que je croyais, je ne peux pas dire n'être important que pour moi, mais n'avoir été aperçu que de moi, et que je retrouvais ainsi, transcrit en une version dont je ne soupçonnais pas l'existence, dans la pensée d'Albertine. Dès ce premier jour, quand en rentrant je pus voir le souvenir que je rapportais, je compris quel tour de muscade avait été parfaitement exécuté et comment j'avais causé un moment avec une personne qui, grâce à l'habileté du prestidigitateur, sans avoir rien de celle que j'avais suivie si longtemps au bord de la mer, lui avait été substituée. J'aurais du reste pu le deviner d'avance, puisque la jeune fille de la plage avait été fabriquée par moi. Malgré cela, comme je l'avais, dans mes conversations avec Elstir, identifiée à Albertine, je me sentais envers celle-ci l'obligation morale de tenir les promesses d'amour faites à l'Albertine imaginaire. On se fiance par procuration, et on se croit obligé d'épouser ensuite la personne interposée. D'ailleurs, s'y avait disparu, provisoirement du moins, de ma vie, une angoisse qu'avait suffi à apaiser le souvenir des manières comme il faut, de cette expression parfaitement commune et de la tempe enflammée, ce souvenir éveillait en moi un autre genre de désir qui, bien que doux et nullement douloureux, semblable à un sentiment fraternel, pouvait à la longue devenir aussi dangereux en me faisant ressentir à tout moment le besoin d'embrasser cette personne nouvelle, dont les bonnes façons et la timidité, la disponibilité inattendue, arrêtaient la course inutile de mon imagination, mais donnaient naissance à une gratitude attendrie. Et puis, comme la mémoire commence tout de suite à prendre des clichés indépendants les uns des autres, supprime tout lien, tout progrès entre les scènes qui y sont figurées, dans la collection de ceux qu'elle expose, le dernier ne détruit pas forcément les précédents. En face de la médiocre et touchante Albertine à qui j'avais parlé, je voyais la mystérieuse Albertine en face de la mer. C'était maintenant des souvenirs, c'est-à-dire des tableaux dont l'un ne me semblait pas plus vrai que l'autre. Pour en finir avec ce premier soir de présentation, en cherchant à revoir ce petit grain de beauté sur la joue au-dessous de l'œil, je me rappelais que de chez Elstir, quand Albertine était partie, j'avais vu ce grain de beauté sur le menton. En somme, quand je la voyais, je remarquais qu'elle avait un grain de beauté, mais ma mémoire errante le promenait ensuite sur la figure d'Albertine et le plaçait tantôt ici, tantôt là. J'avais beau être assez désappointée d'avoir trouvé en Mademoiselle Simonet une jeune fille trop peu différente de tout ce que je connaissais, de même que ma déception devant l'église de Balbec ne m'empêchait pas de désirer aller à Quimperlé, à Pont-Aven ou à Venise, je me disais que, par Albertine du moins, si elle-même n'était pas ce que j'avais espéré, je pourrais connaître ses amis de la petite bande. Je crus d'abord que j'y échouerais. Comme elle devait rester fort longtemps encore à Balbec, et moi aussi, j'avais trouvé que le mieux était de ne pas trop chercher à la voir et d'attendre une occasion qui me fît la rencontrer. Mais cela arriva-t-il tous les jours, il était fort à craindre qu'elle se contentât de répondre de loin à mon salut, lequel dans ce cas, répété quotidiennement pendant toute la saison, ne m'avancerait à rien. Peu de temps après, un matin où il avait plu et où il faisait presque froid, je fus abordée sur la digue par une jeune fille portant un toquet et un manchon si différentes de celles que j'avais vues à la réunion d'Elstir, que reconnaître en elle la même personne semblait pour l'esprit une opération impossible. Le mien y réussit cependant, mais après une seconde de surprise qui, je crois, n'échappa pas à Albertine. D'autre part, me souvenant à ce moment-là des bonnes façons qui m'avaient frappée, elle me fit éprouver l'étonnement inverse par son ton rude et ses manières petites bandes. Au reste, la tempe avait cessé d'être le centre optique et rassurant du visage, soit que je fusse placé de l'autre côté, soit que le toquet la recouvrit, soit que son inflammation ne fût pas constante. « Quel temps !» me dit-elle. « Au fond, l'été sans fin de Balbec est une vaste blague. Vous ne faites rien ici. On ne vous voit jamais au golf, au bal du casino. Vous ne montez pas à cheval non plus. Comme vous devez vous raser, vous ne trouvez pas qu'on se bêtifie à rester tout le temps sur la plage. Ah, vous aimez à faire le lézard. Vous avez du temps de reste. Je vois que vous n'êtes pas comme moi, j'adore tous les sports. Vous n'étiez pas aux courses de la Sogne. Nous y sommes allés par le tram et je comprends que ça ne vous amuse pas de prendre un taco pareil. Nous avons mis 2 heures. J'aurais fait 3 fois l'aller-retour avec ma bécane. » Moi qui avais admiré Saint-Loup quand il avait appelé, tout naturellement, le petit chemin de fer d'intérêt local le tortillard à cause des innombrables détours qu'il faisait, j'étais intimidée par la facilité avec laquelle Albertine disait le tram, le taco. Je sentais sa maîtrise dans un mode de désignation où j'avais peur qu'elle ne constatât et ne méprisât mon infériorité. Encore la richesse de synonymes que possédait la petite bande pour désigner ce chemin de fer ne m'était-elle pas encore révélée? En parlant, Albertine gardait la tête immobile, les narines serrées, ne faisait remuer que le bout des lèvres. Il en résultait ainsi un son traînard et nasal dans la composition duquel entraient peut-être des hérédités provinciales. Une affectation juvénile de flegme britannique, les leçons d'une institutrice étrangère et une hypertrophie congestive de la muqueuse du nez. Cette émission, qui cédait bien vite du reste quand elle connaissait plus les gens et redevenait naturellement enfantine, aurait pu passer pour désagréable. Mais elle était particulière et m'enchantait. Chaque fois que j'étais quelques jours sans la rencontrer, je m'exaltais en me répétant « On ne vous voit jamais au golf !» avec le ton nasal sur lequel elle l'avait dit, toute droite, sans bouger la tête. Et je pensais alors qu'il n'existait pas de personne plus désirable. Nous formions ce matin-là un de ces couples qui piquent çà et là la digue de leur conjonction, de leur arrêt. Juste le temps d'échanger quelques paroles avant de se désunir pour reprendre séparément chacun sa promenade divergente. Je profitais de cette immobilité pour regarder et savoir définitivement où était situé le grain de beauté. Or, comme une phrase de Vinteuil qui m'avait enchantée dans la sonate, et que ma mémoire faisait errer de l'andante au final jusqu'au jour où, ayant la partition en main, je pus la trouver et l'immobiliser dans mon souvenir à sa place dans le scherzo, de même le grain de beauté que je m'étais rappelé tantôt sur la joue, tantôt sur le menton, s'arrêta à jamais sur la lèvre supérieure au-dessous du nez. C'est ainsi encore que nous rencontrons avec étonnement des vers que nous savons par cœur, dans une pièce où nous ne soupçonnions pas qu'ils se trouvassent. À ce moment, comme pour que devant la mer se multipliât en liberté dans la variété de ses formes, tout le riche ensemble décoratif qu'était le beau déroulement des vierges, à la fois dorées et roses, cuites par le soleil et par le vent, les amies d'Albertine, aux belles jambes à la taille souple mais si différentes les unes des autres, montrèrent leur groupe qui se développa, s'avançant dans notre direction, plus près de la mer, sur une ligne parallèle. Je demandai à Albertine la permission de l'accompagner pendant quelques instants. Malheureusement, elle se contenta de leur faire bonjour de la main. « Mais vos amis vont se plaindre si vous les laissez, » lui dis-je, espérant que nous nous promènerions ensemble. Un jeune homme aux traits réguliers qui tenait à la main des raquettes s'approcha de nous. C'était le joueur de baccarat dont les folies indignaient tant la femme du premier président. D'un air froid, impassible, en lequel il se figurait évidemment que consistait la distinction suprême, il dit bonjour à Albertine. « Vous venez du golf, Octave ?» lui demanda-t-elle. « Ça a-t-il bien marché? Étiez-vous en forme ?»« Oh, ça me dégoûte. Je suis dans les choux, » répondit-il. « Est-ce qu'André y était ?» Oui, elle a fait 77. Oh, mais c'est un record. J'avais fait 82 hier. Il était le fils d'un très riche industriel qui devait jouer un rôle assez important dans l'organisation de la prochaine exposition universelle. Je fus frappée à quel point chez ce jeune homme et les autres très rares amis masculins de ces jeunes filles, la connaissance de tout ce qui était vêtements, manière de les porter, cigares, boissons anglaises, chevaux, et qu'il possédait jusque dans ses moindres détails avec une infaillibilité orgueilleuse qui atteignait à la silencieuse modestie du savant, s'était développé isolément sans être accompagné de la moindre culture intellectuelle. Il n'avait aucune hésitation sur l'opportunité du smoking ou du pyjama, mais ne se doutait pas du cas où on peut ou non employer tel mot, même des règles les plus simples du français. Cette disparité entre les deux cultures devait être la même chez son père, président du syndicat des propriétaires de Balbec, car dans une lettre ouverte aux électeurs qu'il venait de faire afficher sur tous les murs, il disait « J'ai voulu voir le maire pour lui en causer, il n'a pas voulu écouter mes justes griefs. » Octave obtenait au casino des prix dans tous les concours de Boston, de tango, etc., ce qui lui ferait faire, s'il le voulait, un joli mariage dans ce milieu des bains de mer où ce n'est pas au figuré mais au propre que les jeunes filles épousent leurs danseurs. Il alluma un cigare en disant à Albertine « Vous permettez, comme on demande l'autorisation de terminer tout en causant un travail pressé, car il ne pouvait jamais rester sans rien faire, quoiqu'il ne fît d'ailleurs jamais rien. » Et comme l'inactivité complète finit par avoir les mêmes effets que le travail exagéré, aussi bien dans le domaine moral que dans la vie du corps et des muscles, la constante nullité intellectuelle qui habitait sous le front songeur d'Octave avait fini par lui donner, malgré son air calme, d'inefficaces démangeaisons de pensée qui, la nuit, l'empêchaient de dormir, comme il aurait pu arriver à un métaphysicien surmené. Pensant que si je connaissais leurs amis, j'aurais plus d'occasion de voir ces jeunes filles, j'avais été sur le point de demander à lui être présenté. Je le dis à Albertine dès qu'il fut parti en répétant « Je suis dans les choux ». Je pensais lui inculquer ainsi l'idée de le faire la prochaine fois. « Mais voyons, s'écria-t-elle, je ne peux pas vous présenter un gigolo. Ici, ça pullule de gigolo. Mais il ne pourrait pas causer avec vous. Celui-ci joue très bien au golf, un point c'est tout. Je m'y connais, il ne serait pas du tout votre genre. » Vos amis vont se plaindre si vous les laissez ainsi, lui dis-je, espérant qu'elle allait me proposer d'aller avec elle les rejoindre. Mais non, elles n'ont aucun besoin de moi. Nous croisâmes Bloch qui m'adressa un sourire fin et insinuant et, embarrassé au sujet d'Albertine qu'il ne connaissait pas ou du moins connaissait sans la connaître, abaissa sa tête vers son col d'un mouvement raide et rébarbatif. « Comment s'appelle-t-il, cet ostrogo-là ? » me demanda Albertine. « Je ne sais pas pourquoi il me salue puisqu'il ne me connaît pas. Aussi, je ne lui ai pas rendu son salut. » Je n'eus pas le temps de répondre à Albertine car, marchant droit sur nous, « Excuse-moi, dit-il, de t'interrompre, mais je voulais t'avertir que je vais demain à Doncières. Je ne peux plus attendre sans impolitesse. » Et je me demande ce que de Saint-Loup-en-Bray doit penser de moi. Je te préviens que je prends le train de 2 heures. À la disposition. Mais je ne pensais plus qu'à revoir Albertine et à tâcher de connaître ses amis. Et Doncières, comme elle n'y allait pas et me ferait rentrer après l'heure où elles allaient sur la plage, me paraissait au bout du monde. Je dis à Bloch que cela m'était impossible. Eh bien, j'irai seule. « Selon les deux ridicules alexandrins du sieur Arouet, je dirai à Saint-Loup pour charmer son cléricalisme, « Apprends que mon devoir ne dépend pas du sien, qu'il y manque s'il veut, je dois faire le mien. »« Je reconnais qu'il est assez joli garçon, » me dit Albertine, « mais ce qu'il me dégoûte. » Je n'avais jamais songé que Bloch pût être joli garçon. Il l'était en effet, avec une tête un peu proéminente, un nez très busqué, un air d'extrême finesse et d'être persuadé de sa finesse, il avait un agréable visage. Mais il ne pouvait pas plaire à Albertine. C'était peut-être du reste à cause des mauvais côtés de celle-ci, de la dureté, de l'insensibilité de la petite bande, de sa grossièreté avec tout ce qui n'était pas elle. D'ailleurs, plus tard, quand je les présentais, l'antipathie d'Albertine ne diminua pas. Bloch appartenait à un milieu où, entre la blague exercée contre le monde et pourtant le respect suffisant des bonnes manières que doit avoir un homme qui a les mains propres, on a fait une sorte de compromis spécial qui diffère des manières du monde et est malgré tout une sorte particulièrement odieuse de mondanité. Quand on le présentait, il s'inclinait à la fois avec un sourire de scepticisme et un respect exagéré, et si c'était un homme, il disait « Enchanté, monsieur », d'une voix qui se moquait des mots qu'elle prononçait, mais avait conscience d'appartenir à quelqu'un qui n'était pas un mufle. Cette première seconde donnée à une coutume qu'il suivait et raillait à la fois, comme il disait le 1er janvier « Je vous la souhaite bonne et heureuse », il prenait un air fin et rusé et proférait des choses subtiles, qui étaient souvent pleines de vérité, mais tapées sur les nerfs d'Albertine. Quand je lui dis ce premier jour qu'il s'appelait Bloch, elle s'écria « Je l'aurais parié que c'était un youpin. C'est bien leur genre de faire les punaises. » Du reste, Bloch devait dans la suite irriter Albertine d'autre façon. Comme beaucoup d'intellectuels, il ne pouvait pas dire simplement les choses simples. Il trouvait pour chacune d'elles un qualificatif précieux, puis généralisait. Cela ennuyait Albertine, laquelle n'aimait pas beaucoup qu'on s'occupât de ce qu'elle faisait, que, quand elle s'était foulé le pied et restait tranquille, Bloch dit « Elle est sur sa chaise longue, mais par ubiquité ne cesse pas de fréquenter simultanément de vagues golf et de quelconque tennis. » Ce n'était que de la littérature, mais qui, à cause des difficultés qu'Albertine sentait que cela pouvait lui créer, avec des gens chez qui elle avait refusé une invitation en disant qu'elle ne pouvait pas remuer, eût suffi pour lui faire prendre en grippe la figure, le son de voix du garçon qui disait ces choses. Nous nous quittâmes, Albertine et moi, en nous promettant de sortir une fois ensemble. J'avais causé avec elle sans plus savoir où tombaient mes paroles, que si j'eusse jeté des cailloux dans un abîme sans fond. Qu'elles soient remplies en général par la personne à qui nous les adressons d'un sens qu'elle tire de sa propre substance et qui est très différent de celui que nous avions mis dans ces mêmes paroles, c'est un fait que la vie courante nous révèle perpétuellement. Mais si, de plus, nous nous trouvons auprès d'une personne dont l'éducation, comme pour moi celle d'Albertine, nous est inconcevable, inconnus les penchants, les lectures, les principes, nous ne savons pas si nos paroles éveillent en elles quelque chose qui y ressemble plus que chez un animal à qui pourtant on aurait à faire comprendre certaines choses. De sorte qu'essayer de me faire lier avec Albertine m'apparaissait comme une mise en contact avec l'inconnu, sinon avec l'impossible, comme un exercice aussi malaisé que dresser un cheval, aussi passionnant qu'élever des abeilles ou que cultiver des rosiers. J'avais cru, il y avait quelques heures, qu'Albertine ne répondrait à mon salut que de loin. Nous venions de nous quitter en faisant le projet d'une excursion ensemble. Je me promis, quand je rencontrerai Albertine, d'être plus hardi avec elle, et je m'étais tracé d'avance le plan de tout ce que je lui dirais, et même, maintenant que j'avais tout à fait l'impression qu'elle devait être légère, de tous les plaisirs que je lui demanderais. Mais l'esprit est influençable comme la plante, comme la cellule, comme les éléments chimiques, et le milieu qui le modifie si on l'y plonge, ce sont des circonstances, un cadre nouveau. Devenu différent par le fait de sa présence même, quand je me trouvais de nouveau avec Albertine, je lui dis tout autre chose que ce que j'avais projeté. Puis, me souvenant de la tempe enflammée, je me demandais si Albertine n'apprécierait pas davantage une gentillesse qu'elle saurait être désintéressée. Enfin, j'étais embarrassée devant certains de ses regards, de ses sourires. Ils pouvaient signifier « meurs facile », mais aussi gaieté un peu bête d'une jeune fille sémillante, mais ayant un fond d'honnêteté. Une même expression, de figure comme de langage, pouvant comporter diverses acceptions, j'étais hésitant comme un élève devant les difficultés d'une version grecque. Cette fois-là, nous rencontrâmes presque tout de suite la grande, Andrée, celle qui avait sauté par-dessus le premier président. Albertine dut me présenter. Son amie, avec des yeux extraordinairement clairs, comme est dans un appartement à l'ombre l'entrée par la porte ouverte d'une chambre où donne le soleil et le reflet verdâtre de la mer illuminée. 5 messieurs passèrent que je connaissais très bien de vue depuis que j'étais à Balbec. Je m'étais souvent demandé qui ils étaient.
« Ce ne sont pas des gens très chics !»
me dit Albertine en ricanant d'un air de mépris. « Le petit vieux teint qui a des gants jaunes, il en a une touche, hein, il dégote bien. C'est le dentiste de Balbec, c'est un brave type. Le gros, c'est le maire. Pas le tout petit gros, celui-là, vous devez l'avoir vu, c'est le professeur de danse. Il est assez moche aussi. Il ne peut pas nous souffrir parce que nous faisons trop de bruit au casino, que nous démolissons ses chaises. » Que nous voulons danser sans tapis. Aussi, il ne nous a jamais donné le prix, quoiqu'il n'y a que nous qui sachions danser. Le dentiste est un brave homme, je lui aurais fait bonjour pour faire rager le maître de danse, mais je ne pouvais pas parce qu'il y a avec eux M. de Sainte-Croix, le conseiller général. Un homme d'une très bonne famille qui s'est mis du côté des républicains pour de l'argent. Aucune personne propre ne le salue plus. Il connaît mon oncle à cause du gouvernement, mais le reste de ma famille lui a tourné le dos. Le maigre avec un imperméable, c'est le chef d'orchestre. Comment, vous ne le connaissez pas? Il joue divinement. Vous n'avez pas été entendre Cavalleria Rusticana? Oh, je trouve ça idéal. Il donne un concert ce soir. Mais nous ne pouvons pas y aller parce que ça a lieu dans la salle de la mairie. Au casino, ça ne fait rien. Mais dans la salle de la mairie d'où on a enlevé le Christ, la mère d'André tomberait en apoplexie si nous y allions. Vous me direz que le mari de ma tante est dans le gouvernement. Mais qu'est-ce que vous voulez, ma tante est ma tante. Ce n'est pas pour cela que je l'aime. Elle n'a jamais eu qu'un désir, se débarrasser de moi. La personne qui m'a vraiment servi de mère, et qui a eu double mérite puisqu'elle ne m'est rien, c'est une amie que j'aime du reste comme une mère. Je vous montrerai sa photo. Nous fûmes abordés un instant par le champion de golf et joueur de baccarat, Octave. Je pensais avoir découvert un lien entre nous, car j'appris dans la conversation qu'il était un peu parent, et de plus, assez aimé des Verdurin. Mais il parla avec dédain des fameux mercredis, et ajouta que M. Verdurin ignorait l'usage du smoking. Ce qui rendait assez gênant de le rencontrer dans certains music halls, où on aurait autant aimé ne pas s'entendre crier « Bonjour Galopin !» par un monsieur en veston et en cravate noire de notaire de village. Puis Octave nous quitta, et bientôt après ce fut le tour d'André, arrivé devant son chalet où elle entra sans que de toute la promenade elle m'eût dit un seul mot. Je regrettais d'autant plus son départ que, tandis que je faisais remarquer à Albertine combien son amie avait été froide avec moi, et rapprochait en soi-même cette difficulté qu'Albertine semblait avoir à me lier avec ses amis, de l'hostilité contre laquelle, pour exaucer mon souhait, paraissait s'être le premier jour heurté Elstir, passèrent des jeunes filles que je saluais, les demoiselles d'Ambrezac, auxquelles Albertine dit aussi bonjour. Je pensais que ma situation vis-à-vis d'Albertine allait en être améliorée. Elles étaient les filles d'une parente de Madame de Villeparisis, et qui connaissait aussi Madame de Luxembourg. Monsieur et Madame d'Ambrezac, qui avaient une petite villa à Balbec et, excessivement riches, menaient une vie des plus simples, étaient toujours habillés, le mari du même veston, la femme d'une robe sombre. Tous deux faisaient à ma grand-mère d'immenses saluts qui ne menaient à rien. Les filles, très jolies, s'habillaient avec plus d'élégance, mais une élégance de ville et non de plage. Dans leurs robes longues, sous leurs grands chapeaux, elles avaient l'air d'appartenir à une autre humanité qu'Albertine. Celles-ci savaient très bien qui elles étaient.
Ah, oh, vous connaissez les petites d'Ambrezac? Eh bien, vous connaissez des gens très chics.
Du reste, ils sont très simples, ajouta-t-elle comme si c'était contradictoire.
Elles sont très gentilles, mais tellement bien élevées qu'on ne les laisse pas aller au casino, surtout à cause de nous, parce que nous avons trop mauvais genre. Elles vous plaisent?
Dame, ça dépend. C'est tout à fait les petites oies blanches.
Ça a peut-être son charme.
Si vous aimez les petites oies blanches, vous êtes servi à souhait. Il paraît qu'elles peuvent plaire, puisqu'il y en a déjà une de fiancée au marquis de Saint-Loup. Et cela fait beaucoup de peine à la cadette qui était amoureuse de ce jeune homme. Moi, rien que leur manière de parler du bout des lèvres m'énerve. Et puis, elles s'habillent d'une manière ridicule. Elles vont jouer au golf en robe de soie. À leur âge, elles sont mises plus prétentieusement que des femmes âgées qui savent s'habiller. Tenez, Madame Elstir, voilà une femme élégante. »
Je répondis qu'elle m'avait semblé vêtue avec beaucoup de simplicité. Albertine se mit à rire.
« Elle est mise très simplement, en effet, mais elle s'habille à ravir, et pour arriver à ce que vous trouvez de la simplicité, elle dépense un argent fou. »
Les robes de Madame Elstir passaient inaperçues aux yeux de quelqu'un qui n'a pas le goût sûr et sobre des choses de la toilette. Il me faisait défaut. Elstir le possédait au suprême degré, à ce que me dit Albertine. Je ne m'en étais pas doutée, ni que les choses élégantes mais simples qui emplissaient son atelier étaient des merveilles longtemps désirées par lui, qu'il avait suivi de vente en vente, connaissant toute leur histoire, jusqu'au jour où il avait gagné assez d'argent pour pouvoir les posséder. Mais là-dessus, Albertine, aussi ignorante que moi, ne pouvait rien m'apprendre. Tandis que pour les toilettes averties teint de coquette, et peut-être par un regret de jeune fille pauvre qui goûte avec plus de désintéressement, de délicatesse, chez les riches, ce dont elle ne pourra se parer elle-même, elle sut me parler très bien des raffinements d'Elstir, si difficiles qu'il trouvait toute femme mal habillée, et que, mettant tout un monde dans une proportion, dans une nuance, il faisait faire pour sa femme à des prix fous des ombrelles, des chapeaux, des manteaux qu'il avait appris à Albertine à trouver charmants, et qu'une personne sans goût n'eût pas pu remarquer que je n'avais fait. Du reste, Albertine, qui avait fait un peu de peinture sans avoir d'ailleurs, elle l'avouait, aucune disposition, éprouvait une grande admiration pour Elstir et, grâce à ce qu'il lui avait dit et montré, s'y connaissait en tableau d'une façon qui contrastait fort avec son enthousiasme pour Cavalleria Rusticana. C'est qu'en réalité, bien que cela ne se vît guère encore, elle était très intelligente, et dans les choses qu'elle disait, la bêtise n'était pas sienne, mais celle de son milieu et de son âge. Elstir avait eu sur elle une influence heureuse, mais partielle. Toutes les formes de l'intelligence n'étaient pas arrivées chez Albertine au même degré de développement. Le goût de la peinture avait presque rattrapé celui de la toilette et de toutes les formes d'élégance, mais n'avait pas été suivi par le goût de la musique qui restait fort en arrière. Albertine avait beau savoir qui étaient les Ambrosac, comme qui peut le plus ne peut pas forcément le moins, je ne la trouvais pas, après que j'eusse salué ces jeunes filles, plus disposée à me faire connaître ses amis. « Vous êtes bien bon de leur donner de l'importance. Ne faites pas attention à elles, ce n'est rien du tout. Qu'est-ce que ces petites gosses peuvent compter pour un homme de votre valeur ? André, au moins, est remarquablement intelligente. C'est une bonne petite fille, quoique parfaitement fantasque, mais les autres sont vraiment très stupides. » Après avoir quitté Albertine, je ressentis tout à coup beaucoup de chagrin que Saint-Loup m'eût caché ses fiançailles et fit quelque chose d'aussi mal que se marier sans avoir rompu avec sa maîtresse. Peu de jours après, pourtant, je fus présentée à André, et comme elle parla assez longtemps, j'en profitai pour lui dire que je voudrais bien la voir le lendemain. Mais elle me répondit que c'était impossible, parce qu'elle avait trouvé sa mère assez mal et ne voulait pas la laisser seule. Deux jours après, étant allé voir Elstir, il me dit la sympathie très grande qu'André avait pour moi. Comme je lui répondais, « Mais c'est moi qui ai eu beaucoup de sympathie pour elle dès le premier jour. Je lui avais demandé à la revoir le lendemain, mais elle ne pouvait pas. » « Oui, je sais, elle me l'a raconté, » me dit Elstir. « Elle l'a assez regretté, mais elle avait accepté un pique-nique à 10 lieues d'ici où elle devait aller en break et elle ne pouvait plus se décommander. » Bien que ce mensonge fût, André me connaissant si peu, fort insignifiant, je n'aurais pas dû continuer à fréquenter une personne qui en était capable. Car ce que les gens ont fait, ils le recommencent indéfiniment. Et qu'on aille voir chaque année un ami qui les premières fois n'a pu venir à votre rendez-vous ou s'est enrhumé, on le retrouvera avec un autre rhume qu'il aura pris, on le manquera à un autre rendez-vous où il ne sera pas venu, pour une même raison permanente à la place de laquelle il croit voir des raisons variées tirées des circonstances. »